Flash.
Prends un café et marche, il est 7h. Et à 7h, en plus du Kawa, il est l'heure du flash présenté par Thierry Nicolet. Bonjour Thierry.
Bonjour Loïc et bonjour à tout le monde. Les élèves valaisans auront droit à une année scolaire presque normale. Le canton a présenté hier sa stratégie pour la rentrée 2021-2022. Dans les grandes lignes, plusieurs plans modulables ont été élaborés pour chaque degré. Un fil rouge demeure, le respect des normes sanitaires. Christophe Darbelay, chef du département de l'économie et de la formation.
Je pense qu'il y a vraiment une solution qui est pragmatique. On ne change pas grand-chose à l'école primaire. On n'a jamais porté le masque. On ne va pas le porter non plus. On va supprimer les quarantaines à l'école primaire, dans le sens où si on a deux cas dans une classe, eh bien on va tester toute la classe. Et puis ensuite, on fera trois tests répétitifs après 4 jours, 11 jours et 18 jours après le premier test. Et ça permettra d'éviter les quarantaines. Au cycle d'orientation, et c'est la grande innovation, on va supprimer le port du masque. Et pour cela, on va faire des tests systématiques, bien sûr avec l'assentiment des parents, pour pouvoir éviter les quarantaines et le port du masque. Parce que c'était très très difficile d'enseigner avec un masque, aussi d'enseigner par exemple les langues avec des élèves qui portent un masque, c'était quelque chose de très compliqué. Donc on a vraiment pu maintenant éliminer les deux barrières principales.
Au secondaire 2, la situation est un peu différente. Étudiants et enseignants pourront tomber le masque sous certaines conditions. Seront concernées les personnes vaccinées et celles qui ont guéri du Covid dans les 6 mois. Un sujet préparé par Quentin Frey. Un vétérinaire montaisan utilise des thérapies originales pour débarrasser chiens et chats de leur traumatisme. Walter Villiger évoque cela dans son deuxième ouvrage, Guide pratique de médecine vétérinaire énergétique. Dans ce livre, qui s'adresse aux particuliers comme aux professionnels, le praticien distille des conseils d'alimentation et de traitement doux pour les animaux de compagnie. L'élément central de la publication est la thérapie énergétique. Le vétérinaire explique que ce mot s'applique principalement à l'ostéopathie et à l'acupuncture pour animaux, des disciplines pour lesquelles il s'est formé. Nous écoutons Walter Villiger.
Quand on parle d'acupuncture, par exemple, on va agir sur les circuits électriques qui parcourent notre corps et qui nourrissent les organes et les tissus. Quand on pose des aiguilles d'acupuncture, on est en train déjà d'agir sur l'énergie de notre corps. Le diagnostic passe par un toucher, on va sentir les méridiens, proprement dit, on va sentir les points qui sont en blocage et ensuite on peut poser des aiguilles sur les points. Par rapport à l'ostéopathie, on va toucher les structures qui sont les muscles, les tendons, les nerfs, les ligaments et puis on va sentir si ces tissus sont touchés par des tensions, s'il y a eu des étirements et comme ça on peut sentir ce qui se passe et par la suite passer à des manipulations qui vont débloquer ces structures.
Et le vétérinaire qui pratique également le magnétisme de préciser qu'il réalise toujours en préambule un diagnostic médical classique. Un sujet de Joël Espy. Le ministère public saint-gallois a inculpé 2 policiers qui avaient abattu un homme en septembre 2020 à Saint-Gall. Le 2 septembre 2020, les 2 agents étaient intervenus dans un appartement. Un homme de 22 ans battait une femme avec une poêle à frire. Ils avaient sommé l'agresseur de cesser de frapper sa victime. Le jeune homme n'avait pas réagi aux injonctions et avait continué de taper sur sa victime. Les 2 policiers avaient alors tiré et tué l'agresseur. La femme de 46 ans était décédée plus tard des suites de ses graves blessures. Comme il est d'usage lorsqu'un policier tire un coup de feu, le ministère public avait ouvert une enquête pénale. La date du procès n'est pas encore fixée. Les milieux économiques n'y vont pas avec le dos de la cuillère pour combattre l'initiative dite 99% soumise au peuple le 26 septembre. Celle-ci veut surtaxer fiscalement le 1% de la population la plus riche. Une telle démarche est 100% nuisible et représente 0% de réflexion, c'est ce que disent les partis de droite et l'USAM, l'Union Suisse des Arts et Métiers. On peut s'étonner de voir la fêtière des PME s'engager contre le texte. Les jeunes socialistes visent les plus riches, pas les petites et moyennes entreprises. Le président de l'USAM, le conseiller national tessinois Fabio Regazzi, répond.
C'est, à mon avis, faux de donner cette lecture sur cette initiative parce qu'en effet, elle déclare de vouloir toucher seulement les plus riches. On part de 1% de la population, mais en réalité, avec la formulation très imprécise du texte de l'initiative, on peut toucher aussi beaucoup de PME et aussi beaucoup de normaux citoyens qui ont fait des épargnes, qui ont peut-être mis de l'argent à côté. Ils seraient aussi appelés à la caisse. C'est une initiative qui est populiste, qui veut faire croire qu'on toucherait seulement les super riches, ce qui n'est pas vrai, et on doit le dire clairement pour faire comprendre que ce n'est pas comme ça.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. Le ministre des Finances, Ouli Maurer, est également monté sur le ring hier pour appeler à rejeter une initiative qui péjorerait, selon lui, l'attractivité de la place économique suisse. Des centaines de femmes sont victimes de viols et de mutilations au Tigré en Éthiopie. C'est ce que révèle aujourd'hui un rapport d'Amnesty International. Certaines d'entre elles sont même victimes d'esclavage sexuel. La région du Tigré connaît des combats depuis novembre dernier. Ceux-ci font suite à l'envoi par le Premier ministre Abiy Ahmed de l'armée fédérale pour destituer les autorités régionales issues du Front de libération du peuple du Tigré. Selon Amnesty, il est clair que le viol et la violence sexuelle ont été utilisés comme une arme de guerre pour infliger des dommages physiques et psychologiques durables sur les femmes et les filles au Tigré. On passe au sport, en course à pied. Le Super Trail du Barlatay célébrera sa 10e édition vendredi et samedi à l'Étiva. Lancée en août 2012, l'épreuve a pu être maintenue cette année malgré une situation sanitaire qui est toujours difficile. À l'occasion de ce jubilé, les organisateurs ont décidé de marquer le coup. Et puisque l'aspect festif doit être mis de côté, ils ont décidé d'augmenter la distance du plus long parcours. 103 km figureront cette année au programme des concurrents. Après plusieurs semaines de pluie, dans quel état se trouve ce tracé? La réponse de Jean-David Izot, président du comité d'organisation du Super Trail du Barlatay.
On est en train de préparer le parcours, j'en sors cet après-midi encore. Les terrains sont gorgés d'eau, les chemins sont glissants, les racines, les cailloux, il y a vraiment une quantité d'eau qui est, je dirais, pas très normale pour la saison. Maintenant, on a la chance depuis aujourd'hui jusqu'à ce week-end d'avoir un temps sec, donc un terrain qui va s'essuyer. Ça va sécher gentiment. Par contre, c'est clair qu'on n'aura pas des conditions des premières éditions où on était sous canicule, etc., etc. Donc là, je pense qu'il faut être préparé à avoir à partir en glissade une ou deux fois, ça c'est sûr, et s'appuyer sur ses bâtons, ça sera important dans quelques descentes.
Jean-David Izot au micro de Julien Traxel. Pour cette 10e édition du Super Trail du Barlatay, prévue vendredi et samedi à l'Étiva, les inscriptions sont encore ouvertes, elles fermeront ce soir à 23h59.